Bonjour à tous et bienvenue dans Splash and Go, l'émission de la rédaction d'US Racing, pour parler aujourd'hui de tout ce qui s'est passé à Gateway, c'est-à-dire le départ de la première course et de Daytona en NASCAR. Il y a eu pas mal de choses avec, ça y est, on les connaît, les 16 qualifiés et tous les éliminés. On avait des doutes sur certains noms, maintenant on n'en a plus. On sait qui sera en play-off, de qui n'y sera pas. On vous fera d'ailleurs un petit focus sur les 16 pilotes qualifiés pour le titre. Alors, pour m'accompagner dans cette émission grandiose, encore une fois, Lilian. Salut Lilian.
Salut Geoffroy et bonjour à tous.
Et il a préparé ses pronostics pour les play-offs. Il est au taquet. Il voit Chase Elliott champion.
Et ça nous a bien fait rire au passage.
C'est Aloïs. Salut Aloïs.
Salut Geoffroy, salut Lilian et bonjour à tout le monde.
Allez, on commence avec l'IndyCar, Lilian, qui était du côté de Gateway pour les deux dernières courses de la saison sur ovale. Les 8e et 9e manches de la saison, donc après Indianapolis, on a enchaîné avec deux courses sur ovale cette fois-ci.
Avant une nouvelle très longue pause, malheureusement.
Oui, c'est un peu l'histoire, non pas de la vie, mais de la saison d'IndyCar. Deux courses similaires, deux courses extrêmement tactiques, deux courses où les dépassements ont été très compliqués, comme ça peut souvent être le cas sur les ovales plats comme celui de Gateway. Et au final, on s'est bien foutu de la gueule des pilotes d'IndyCar au départ de la course samedi.
Y en a plusieurs qui, malheureusement, n'ont même pas franchi la ligne de départ.
Dont Alexander Rossi.
Et oui, voilà, et notamment oui, voilà, Alexander Rossi, qui, à l'image d'un Kyle Busch en NASCAR, continue sa saison pourrie. Je pense qu'il n'y a malheureusement pas d'autres mots pour Alexander Rossi, hein, qui multiplie les mauvais résultats et les abandons, qui plus est.
Mmh. Ouais, donc, il y avait qui était content quand même dans le lot. C'était NBC, ça leur faisait des spectateurs en plus.
Ils ont doublé au moins leur quota. Là.
Mais c'est vrai qu'en fait, sur cette première course, c'est quand même le fait le plus marquant, quoi. C'est ce crash multiple au départ. Dû encore une fois à la double ligne qui n'est jamais, jamais respectée depuis des saisons et des saisons en IndyCar avant que le drapeau vert ne soit agité.
Ouais, je pense qu'il traîne ça de l'époque de l'IRL, parce qu'il faut bien dire ce qu'il est. À l'époque de l'IRL, c'était aussi assez fameux les départs lancés sur ovale. Ça fait quand même quelques années que je le dis. Toi aussi, Lilian, toi aussi, Aloïs, on va peut-être falloir que l'IndyCar se penche sérieusement sur la question et nous fasse un petit quelque chose, quoi. Et nous pondre un petit règlement qui soit intéressant, parce que là, ça devient malheureusement risible.
Vas-y, Aloïs.
Ou alors, faut qu'il tape un bon coup sur la table et qu'il sanctionne n'importe quel pilote qui démarre pas dans la ligne. C'est simple pourtant, hein. Il n'y a rien de compliqué pour comprendre à un moment, puisque, comme vous le faites bien référence, ça traîne depuis très longtemps. Régulièrement, il y a des soucis au niveau des départs. Et là, on a eu un bon petit concours de bowling sur la première course à Gateway. Et là, Andretti Autosport a fait de son mieux, hein, j'ai envie de dire strike presque. Hein,
c'était pourtant pas les Go Bowling 500.
J'y avais pensé, ouais.
Et pourtant, il y en a trois, en comptant Marco, qui sont passés à la trappe dès le premier tour.
C'est ça. C'est exactement ça. Il y avait Marco Andretti, Alexander Rossi et Zach Veitch qui nous a fait un week-end assez propre puisqu'il fait 22e de la seconde course. Nickel, quoi. Ça vaut son pesant d'or en points. Du coup, le samedi, quand même, on peut dire un mot sur le vainqueur. Aloïs, si tu t'en souviens.
Alors, c'est un petit peu comme Eddie Merckx. Tu as une chance sur deux de trouver la bonne réponse. Cette année, en 2020, c'est Scott Dixon.
C'est d'actualité, apparemment.
C'est clair que Scott Dixon cette année fait très très fort, solide leader du championnat, puisque même s'il ne fait que cinquième de la seconde course de Gateway, Il a quand même 96 points d'avance sur le deuxième du championnat.
Et pour revenir au résultat de la première course, on a encore eu une bataille entre Scott Dixon et Takuma Sato. Et cette
oui.
semaine, c'est le Néo-Zélandais qui a pris le dessus sur le Japonais.
Oui, mais le Japonais,
il faudrait y revenir,
il a gagné la course la plus importante.
Il est vrai, il est vrai.
Donc, mais oui, mais belle lutte entre les deux sur la fin de course. Et, comme tu le disais, Lilian, enfin à Louis en tout cas, c'était la revanche. Et, bah, cette fois-ci, ça a souri à Scott Dixon. Lilian, tu voulais ajouter quelque chose sur cette bagarre entre le Japonais et le Néo-Zélandais?
Ah non, je me suis trompé, c'est sur la deuxième course qu'il y a un scandale à la fin.
Il y a un scandale à la fin sur la seconde
course. C'est la deuxième qui se finit sous jaune.
Oui, 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 oui.
C'est plus pour ça qu'il va y avoir des choses à dire.
Ah oui, d'accord, ok, oui. Bah, malheureusement, c'est une habitude. Hein. Faut s'y habituer. T'as un drapeau jaune à 4 tours de la fin, tu termines sous jaune en IndyCar. Hein. C'est dommageable parce que tu pourrais faire autrement, mais a priori, le drapeau rouge, ils ne l'ont pas. On l'a vu aussi sur la première course, hein, parce que au départ, je pense que tu mets un drapeau rouge, ça permet de faire 10 tours de plus sous vert, ça peut être aussi sympathique.
Ouais, non, mais je vais remettre le couvert.
Scandaleux, franchement.
Franchement, c'est le moment de créer une sorte d'overtime, ou comme il fut un temps en NASCAR du Green White Checker, pour honnêtement qu'on ait des fins de course sous drapeau vert, puisque ça a été assez flagrant à Indianapolis. La semaine dernière, ça l'a été cette semaine à Gateway sur la seconde course. Si les gars sont intelligents et si Roger Penske n'a pas oublié qu'il avait une écurie en NASCAR, je pense que ce serait une bonne idée d'instaurer un système d'overtime en IndyCar pour prolonger les courses au-delà du nombre de tours prévus au niveau du départ.
Et même, j'irais même au-delà. Pour moi, les restarts en double fil, ça devrait aussi exister.
Ouais, non, mais pour que ça existe, il faudrait déjà que les départs en double fil soient maîtrisés.
Oui, ça c'est encore un autre problème.
Pardon. Non, mais il faut peut-être déjà commencer à la source. Je suis désolé, faut encore dire que je tape sur l'IndyCar, mais...
Non, mais des restarts en single file... tout est dit parce que je souffle, mais ouais, non, quand t'es habitué à regarder la NASCAR et que tu vois l'IndyCar en single file sur les restarts, bah ouais, non, c'est pas. Non, ça me plaît pas.
Bon, en même temps, ils maîtrisent pas les départs, j'ai envie de te dire. Pourquoi instaurer ça au cours de la course, hein?
C'est pas faux.
Pratique un petit moment.
C'est vrai. Alors, comme tu le disais, Lilian, en préambule. Grande pause une nouvelle fois pour l'IndyCar, puisqu'il n'y a rien au mois de septembre. On devrait sûrement recaser le double header de Mid-Ohio. Sinon, c'est rendez-vous le 2 octobre pour Indianapolis.
Ah, il y avait longtemps.
Que de quoi? Qu'on n'était pas allé à Indianapolis ou qu'on avait eu un trou d'un mois?
Qu'on n'avait pas été à Indianapolis.
Les deux qui dit Aloïs. J'adore. oui, mais bon, malheureusement, on en avait parlé au moment de la reprise du championnat IndyCar. Indianapolis, c'est la solution de facilité. Comme Charlotte et Darlington ont été la solution de facilité pour la NASCAR, à ceci près que pour la NASCAR, ça n'a été que pour la reprise. Pour l'IndyCar, on a l'impression que ça a été un petit peu pour toute la saison. Mais bon, c'est comme ça. On verra bien quand est-ce que Mid-Ohio est replacé. Si Mid-Ohio est replacé, on pourrait peut-être imaginer que ce soit repris par Indianapolis. Comme ça, on n'aurait pas deux courses à Indianapolis, mais on en aurait quatre.
On aurait un deuxième Indy 500.
Ouais, ça a l'air de te faire vachement plaisir d'avoir des 500 miles à Indianapolis. Cache ta joie.
Non, mais bon, Indianapolis, c'est bien, mais bon, il n'y a pas. Il n'y a pas que l'état de l'Indiana qui autorise des courses, quand même.
Non, c'est sûr. Alors, on peut faire un petit point au classement, quand même, puisque il nous reste que. 3 courses plus 2 à Calais, donc peut-être 5. Donc on l'a dit, Scott Dixon, il a peut-être quand même déjà une main sur le titre, Aloïs.
Ouais, une main et 4 doigts. Hein.
Ah, t'es comme ça, une main et 4 doigts.
Bah, il a déjà 4 victoires. La plupart du temps, il semble intouchable. Joseph Newgarden, qui est le fameux pilote à 96 points. Il a certes 2 victoires, dont une obtenue à Gateway sur la seconde course. Mais le pilote Penske apparaît quand même sur courant alternatif et... un cran, voire deux, en dessous du niveau de Scott Dixon en 2020.
Comme toute la Penske, en fait.
C'est ce que je vais dire.
C'est un petit tir groupé pour les trois Penske, c'est clair.
Simon Pagenaud a connu un week-end abominable, du début à la fin.
Bah, il est pris dans l'accident du premier tour de la première course. Et je crois qu'il touche dans le premier tour de la seconde course aussi.
Et c'était pas forcément bien meilleur pour Will Power. Il sauve les meubles sur la seconde course, quand même. Avec une troisième place. Mais bon, c'était pas fameux non plus sur la première. Invisible. Invisible. Il a quand même mené une bonne partie de la course. Mais il a eu des soucis. Comme la Penske depuis le début de la saison, en somme. Je pense que Joseph Newgarden est quand même l'arbre qui cache la forêt.
Ouais, il y en a un qui a été très bon sur le week-end, on n'a pas dit un mot. C'est quand même le rookie Pato, enfin rookie non, s'il n'est pas considéré comme rookie, mais Pato Howard.
Bah, on aurait pu croire à la victoire sur la première course.
Oui, et puis sur la fin de la seconde aussi.
Il y a eu, tu m'arrêtes si je me trompe, un arrêt, un mauvais arrêt. Le dernier arrêt a été plus lent que ses concurrents.
Oui.
Et à partir de là, ouais, il a perdu plusieurs positions et puis il s'en est jamais remis.
Bah, Pato Howard, c'est simple, hein. Il a que deux résultats en dehors du top 8 depuis le début de la saison. Donc sur la manche d'ouverture au Texas et sur la seconde course d'Iowa. Sinon, solide et il reste sur une troisième et une seconde place à Gateway ce week-end. Donc je suis assez impressionné par ses performances. Et je pense que dans le même sac, on pourrait mettre Rinus Vicket, qui fait sixième sur la première et quatrième sur la seconde course. Les deux pilotes sont vraiment les révélations de cette saison, qui sont, on ne peut pas dire rookie, comme tu le disais, pour Pat Howard, et sur les débutants, sur les petits jeunes.
Ouais, sauf que Rinus Vicket, il n'est, entre guillemets, que 13e du championnat, alors que Pat Howard est 3e, mais déjà à 119 points de Scott Dixon. Histoire de replacer un petit peu les écarts. Donc, je suis en train de chercher le quatrième. C'est Takuma Sato qui a 274 points. Donc, ça fait 116 plus 26.
Ça fait 142
points de retard.
139. Moi, j'ai 139 de retard, là.
Non.
Pour moi, il a 277 points.
Ah, j'en ai que 274. Il y a peut-être eu un oubli quelque part du côté de l'IndyCar. Mais oui, dans ce cas-là, oui, ça ferait
140 moins.
Et oui. Tu mets combien de points quand tu gagnes une course déjà? Environ 50, non?
C'est 50 plus un point pour un tour mené, plus un point pour la pole, je crois, et un point pour le plus grand nombre de tours menés.
Ouais, donc oui, il est large, ouais.
Oui, il
y a quasiment 4 courses de retard, quoi. Si Scott Dixon, si Takuma Sato gagne 4 courses.
Oui, et que Scott Dixon est au départ à chaque fois.
Et comme c'est pas dit qu'on ait 4 courses.
Et que Scott Dixon finisse dernier de la course.
C'est plus improbable encore.
Ouais, je sais pas qu'est-ce qui est le plus probable dans tout ça.
Cinquième du classement, on peut aussi en dire un mot. Colton Herta, meilleur de l'Armada Andretti, au final.
Enfin, Armada, entre guillemets. Hein.
Ah, alors, Légion Andretti, parce qu'ils sont quand même, nombreux.
Ouais, 50% mais du plateau à eux, s'il te plaît.
Mais en tout cas, pour revenir sur Colton Herta, là encore, c'est une excellente saison, et il porte, c'est bizarre à dire ça, mais il porte la Andretti Autosport sur ses bras en 2020.
Il confirme ce qu'on a vu l'an dernier. Rossi a fait pendant des années, quoi. Mais, c'est ça. Rossi et avant lui Hunter, mais
Là, si on regarde la saison de Colton Herta, en enlevant les deux courses d'Iowa qu'il a totalement loupées, son plus mauvais résultat, c'est 8e à Indianapolis.
C'est presque le meilleur résultat de Rossi.
Exactement.
Là, je suis méchant, c'est gratuit pour Alexander Rossi, le pauvre, quoi.
Mais c'est pragmatique.
Il est au bout de sa vie, mais. Mais on peut le comprendre, quoi. Enfin, la saison, elle tourne pas rond. Quand tu vois qu'Alexander Rossi est 18e du classement général. Enfin...
Derrière Oliver Askew.
On parle d'Alexander Rossi qui jouait le titre il y a deux saisons de ça. À un moment, le talent, il s'est pas évaporé, quoi. Il l'a pas vendu sur le bon coin ou je ne sais où, quoi. Donc,
Après, c'est une longue séquence de malchance qui ne cesse de se répéter.
Oui.
Le vent va tourner, hein. Ou comme dirait un grand philosophe français, la roue tourne, tourne.
Oui, aussi. Mais bon, à la rigueur, vaut mieux que ce soit une saison complète de merde sur 2020 et que ça reparte correctement en 2021, plutôt que ça aille bien pendant 2-3 courses et qu'après ça reparte sur le creux de la vague et que ça enchaîne un peu sur 2021, quoi. Autant qu'il fasse toute la merde sur une année, c'est pas grave, ça arrive malheureusement. On connaît le talent d'Alexander Rossi, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, vice-champion de mémoire en termes de meilleur classement au championnat. Donc voilà, il y a du potentiel, il y a du talent, et puis c'est pas Michael Andretti qui va le lâcher parce qu'il fait une mauvaise saison d'un point de vue résultat.
Bah, en même temps, en termes de résultats, si on prend sa carrière globale et en termes d'apport médiatique, je vois pas qui pourrait rivaliser avec Alexander Rossi chez Andretti.
Personne.
Voilà.
Donc, tant qu'il a son gros sponsor qui continue à le suivre.
C'est ça. Ça va aider. En parlant de pilote médiatique, il l'a été pendant des années. C'était sa dernière course ce week-end, normalement.
En principe, ouais. On a dit adieu, en tout cas sur les circuits, à Tony Canaan.
C'est ça, le petit Brésilien, qui ne va pas partir sur une bonne note, hein, 19e de la seconde course.
Ah, ça faisait un moment que c'était compliqué quand même, hein, malheureusement pour TK.
Oui.
Bon, il a quand même fait 9e sur la première. C'est relativement solide.
Oui, mais bon, voilà, quand tu t'appelles Tony Canaan sur Oval, tu peux quand même t'attendre à ce que ce soit régulièrement devant. Mais et là, c'est vrai qu'en plus, ne faire qu'un calendrier partiel, ça ne doit pas forcément aider à garder le rythme d'une course sur l'autre. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur Gateway, messieurs ?
Oh, je pense qu'on a fait le tour, hein.
Ouais.
Ok, eh ben, écoutez, ce que je vous propose, c'est de clôturer cette page IndyCar, puisque, sauf cataclysme, on ne devrait pas avoir de course avant un petit moment. Donc, on va enchaîner avec le j'aime, j'aime pas et l'info qui sert à rien. Lilian, je t'écoute avec ton j'aime et ton j'aime pas.
Eh ben, je vais commencer avec mon j'aime. C'est les pronostics audacieux d'Aloïs pour ses pronostics pour les playoffs en NASCAR qui arrivent. On s'est quand même bien marré en off avant d'entamer l'émission.
Je tiens à rétablir la vérité. Non, je n'ai pas pronostiqué Chase Elliott. Certes, j'ai très longtemps hésité. Voilà.
Et du coup, t'as mis qui ? T'as mis Jimmy Johnson.
Ah bah évidemment. Qui d'autre ?
Bah, je sais pas. Quelqu'un qualifié pour les playoffs, peut-être ?
Ah ben pour Aloïs, il est qualifié en fait, il n'a pas regardé la bonne course.
Et ton j'aime pas, Lilian ?
Eh ben, je vais remettre une couche, parce que clairement, ça me fait chier, c'est ces putains de courses d'IndyCar qui se finissent sous drapeau jaune. Ils connaissent pas le drapeau rouge.
Non, voilà. Ils le connaissent peut-être, mais ils l'ont peut-être perdu aussi.
Ouais, je sais pas ce qu'ils en ont fait, ils en ont peut-être fait des masques pour le Covid, j'en sais rien, mais... Ouais, non. Clairement, comme tu l'as dit à Loïs, hein, on voit une petite lettre à Roger avec des petites recommandations US Racing. Peut-être que ça pourra faire bouger les choses.
Allez, Loïs, enchaîne là-dessus.
Eh ben, ça va être pas facile. Hein. Alors, mon j'aime, c'est le début du Tour de France. Alléluia, enfin.
Oh putain, ça y est, on nous saoule avec ça.
Ah oui, mais là, vous êtes parti pour 3 semaines, si tout va bien.
Si tout va bien, avec un peu de chance,
ça peut être... En 2020, il faut toujours préciser si tout va bien.
C'est ça. Quoique, avec un peu de chance, ils arriveront au 14 juillet l'année prochaine.
Oh, qui sait, sur un malentendu.
Ça peut marcher. Et ton j'aime pas ?
Mon j'aime pas, je n'en ai pas vraiment. Je n'ai pas trouvé de j'aime pas cette semaine.
Et t'as un second j'aime, parce qu'en général, c'est ça. Quoi. J'ai pas de j'aime pas, mais j'ai un second j'aime.
Ouais, t'as bien, ouais, sûr. À Philippe, drapeau, maillot jaune.
Je sais pas.
J'aime la vie. Ok, voilà, d'accord. Okay, merci.
Allez, une petite transition pour la NASCAR. C'est que Daytona, en finale de saison régulière, eh bien, j'aime. J'aime beaucoup et je pense qu'on va en reparler d'ici quelques secondes.
C'est ça. Ça fait une transition aussi avec mon j'aime, c'est le package aéro de Daytona et de Talladega qui, je trouve, depuis quelques courses, est une réussite puisque nous avons quand même des courses plutôt intéressantes. On n'a plus forcément des courses en single file comme on a pu avoir pendant quelques années, messieurs. Et bon, j'aime pas, malgré tout, ça reste la non-qualification de Jimmy Johnson. On va y revenir. Sportivement, c'est totalement mérité, même s'il fait deux résultats blancs pendant la saison, deux qui sont pas de sa faute. Mais c'est vrai que bah, quand on est cette fois champion, partir par la petite porte en ayant raté les playoffs sur les deux dernières saisons de sa carrière, ça la fout mal. Et l'info qui sert à rien, messieurs, bah, figurez-vous que William Byron, vainqueur à Daytona, eh ben, il a fait une interview vidéo alors qu'il était en train de conduire et son téléphone portable, il s'est cassé la figure. Allez, la NASCAR, Lilian, j'ai du côté de Daytona, en Floride.
Pour l'ovale, cette fois.
Sur l'ovale, cette fois-ci. Pas d'orage, pas de pluie, pas de désespoir, donc pour tous les fans européens qui ne cessent d'hurler à la mort parce que les courses sont trop tardives. Et on a pu avoir une course complète, intégrale, intéressante, et une lutte pour les dernières places qualificatives qui a tenu toutes ses promesses jusqu'au terme de la course. Et encore une fois, celui qui rentre non qualifié à l'entame de la 26e course, eh ben, il n'est toujours pas qualifié après la 26e course.
Bah oui, il n'y a pas eu, on va dire, ouais. Matt Di Benedetto finalement va se qualifier au point. Et puis bah, William Byron, avec sa victoire, va se qualifier également. Et puis bah, c'est Jimmy Johnson qui saute finalement.
Prévisible.
Voilà. Attendu en tout cas. Pour moi, enfin je l'avais dit semaine dernière, moi j'avais fait une grosse cote en disant que les deux Hendrick ne passeraient pas, mais bon voilà, oui, Jimmy Johnson, au vu de sa saison, malheureusement.
C'était pas aussi grand que ça pendant la course, puisque les trois, donc Byron, Di Benedetto et Johnson, ont quand même passé la plus grande partie de la course les uns côté des autres.
Bah, ils ont, et ça c'est vrai que c'était très bon pendant le premier drapeau rouge, ils étaient l'un derrière l'autre, arrêtés sur la ligne droite arrière de l'ovale.
En ayant slalomé au travers du bivouac,
oui.
Ah ouais, pour éviter tous les problèmes.
Alors t'as Byron qui a pris un chemin tout seul, et puis Johnson et Di Benedetto qui se sont suivis. Et puis bah, malheureusement sur le deuxième accident, Johnson a été impliqué, et vu comment la voiture avait pris, bon, on savait que c'était terminé pour lui. Donc déjà, ça en éliminait un. Et puis après, bah, Byron a réussi à prendre la tête en fin de course. Et puis quand il a vu que c'était Chase Elliott derrière lui, il a dû se dire, là, ça commence à sentir bon quand même.
Comme quoi, hein, quand la Hendrick et Boss ensemble, ça gagne. Quoi.
C'est clair. Mais oui,
très souvent, très souvent.
On l'a assez vu avec la Penske, avec la Gibbs. Il n'y a rien de nouveau. Quoi. Et comme tu dis, voilà. Là, ça a gagné. Pourquoi ? Bah ouais, parce qu'ils ont bossé ensemble. Peut-être pas beaucoup, mais ils ont bossé ensemble.
Pour revenir à Jimmy Johnson, je ne sais pas vous, mais j'ai eu un petit soupir de tristesse quand même, puisque
termine
sa carrière sur une non-qualification assez dramatique au play-off.
Et donc, ça y est, on a enfin la réponse. Qui de Jimmy Johnson ou de Chad Knaus va gagner le premier ? Ça y est, c'est Chad Knaus.
J'avais dit Jimmy Johnson, mais je me suis trompé.
Oui. Enfin, en même temps, on pouvait croire Jimmy Johnson, hein. Mais non. Finalement, c'est Chad Knaus avec William Byron. Mais enfin, voilà, on l'a bien senti que chez Hendrick, enfin, tout le monde était content que Byron se qualifie, mais tout le monde en avait un peu lourd, un peu dégoûté que Johnson ne se qualifie pas non plus.
C'était peut-être malheureusement pas le meilleur moment pour Byron de gagner sa première course.
Bah, il a tué le père.
Ouais. Après, j'ai envie de dire, tu vois, pour Johnson, il n'y a rien à regretter parce qu'il a joué son va-tout tout au long de la course. Il a été aux avant-postes tout le temps. Mm-hmm. Il a tenté des choses. Bon, bah voilà, après, On a quand même eu quoi, 100, 100, plus de 140 tours sans interruption pour accident. Bon, voilà, après, malheureusement, sur ce type de piste, on sait que les gros crashs, ça finit par arriver. Il a évité le premier, bon, bah, c'est tout. Le deuxième, il a été pris. Voilà, je pense qu'il y a, à l'issue, c'est pas sur cette course qu'il y a des choses à regretter, en tout cas.
Non, ça se joue à 6 points au final pour Matt Di Benedetto d'avance sur Jimmy Johnson. Comme tu le dis, c'est pas sur cette course spécifiquement, c'est Indianapolis qui rate à cause du coronavirus. C'est l'Echo 600 où il perd le bénéfice de sa troisième place sur une voiture non conforme. Ça, bout à bout,
C'est ça le terrible en
il est
fait.
large en playoff, quoi.
C'est de se dire qu'en fait, il manque cette qualification à cause de sa non-participation à Indianapolis. Bon, certes, c'est pas dit qu'il aurait pu empocher 6 points. C'était pas acquis avant de prendre
Je
la course.
pense qu'il aurait fait plus que Justin Allgaier, qui malheureusement n'a fait qu'un point.
Effectivement. Et surtout qu'il je crois qu'il partait en première ligne normalement, où il était très bien placé à Indianapolis.
Bah, il était bien placé, mais vu qu'il y a eu changement de
Oui.
pilote, c'est comment? Allgaier est parti de l'arrière du peloton où il se fait prendre dans un accident. Je sais plus, l'accident, il est au premier tour ou
Ah, c'est dans
presque.
les stands, sur
Oui,
les
c'est l'accident dans
premières
les
tours.
stands,
Ah oui, dans les
exact.
stands, oui, c'est ça.
Avec les deux de la JTG Dougherty.
Oui, c'est ça, avec le début de la série incroyable de la JTG, là, avec Ryan Preece et comment qui s'appelle, Ricky Stenhouse Jr.
Et c'est pour ça que cette non-qualification est d'autant plus cruelle, parce que clairement, je pense qu'il avait la qualification dans le volant, mais bon, des faits externes, on en voulut autrement, et bien il ne participera pas à ses derniers playoffs en carrière, en cup.
Mais
C'est ça.
j'ai envie de te dire, même au-delà de ça, on parle quand même de Jimmy Johnson, cette fois champion, encore faut-il le rappeler. On est quand même en train de parler de lui pour qu'il se qualifie à la 16e place.
C'est quand même
Mais
assez terrible de se
attends,
retrouver là,
on est
quoi.
quand même sur un peloton maintenant de 39 voitures, dans 40 maximum au départ. T'en as presque la moitié qui peuvent se qualifier pour les playoffs. Il est ric-rac pour être dans cette première moitié.
Ouais, bon
Quand tu
après,
t'appelles
enfin,
le Jimmy Johnson, enfin, tu vois ce que je veux dire, ça la fout mal, quoi.
disons qu'il mette 10 points à Indianapolis et qu'il en mette et qu'il récupère les. Enfin, que sa voiture soit conforme au Coca-Cola 600, je sais, je fais du. J'imagine. Johnson, il est au niveau de Kurt Busch et Alex Bowman, entre la 11e et la 12e place avec 700 points.
Ouais.
C'est.
Ouais, mais
C'est.
sans
Enfin.
victoire. Sans
Sans
victoire, alors que eux, ils doivent.
victoire, mais ça passe quoi. Mais bon, c'est pas, enfin, ça passe, mais tu le vois pas non plus être champion quoi. C'est plus le
Là,
Jimmy Johnson flamboyant qui, même quand il gagnait beaucoup et qu'il avait des incidents, arrivait à se qualifier en playoff en étant deuxième, troisième, quatrième.
ouais. Donc, puis il était quand même en lutte avec des pilotes qui, toute proportion gardée, c'était pas le même calibre, quoi.
Bah non.
Entre un coéquipier, son coéquipier, le petit jeune, et Matt Di Benedetto, qui certes roule avec du matos Penske, enfin bon, voilà, c'est pas le même pédigré, quoi.
Ah bah non,
C'est
mais.
même plus un monde qu'il y a, c'est des univers qu'il y a entre les deux et lui, quoi.
C'est ça, mais voilà.
Donc,
Et Jimmy
bon.
Johnson ne sera pas en playoff. On en a parlé. Voilà. On abordera les 16 autres juste après, Lilian.
Yes.
Et je pense que c'était important malgré tout de revenir sur la performance de Jimmy Johnson sur sa saison. Après, comme le disait aussi Aloïs la semaine dernière, hein, c'est peut-être réveillé un petit peu trop tard en enchaînant les bons résultats qu'à partir de globalement de Dover, quoi. C'est ainsi, on peut refaire le monde dans tous les sens. Il n'y est pas.
Et au final, ça récompense les efforts de la NASCAR qui voulait promouvoir les pilotes qui remportent des victoires. Et au final, bah Byron est qualifié grâce à sa victoire à Daytona. Bon, c'est la dernière course de la saison régulière. Mais c'est le vainqueur qui se qualifie au playoff et pas Jimmy Johnson qui n'a pas gagné de course et qui a sorti les rames une bonne partie de la saison pour glaner quelques points.
Et puis on peut quand même souligner aussi, encore une fois, la bonne stratégie du sorcier Chad Kanos, qui fait rentrer Byron pour lui mettre 4 pneus frais en fin de course. Et c'est peut-être aussi ça qui a pu faire la différence.
Oui, c'est vrai que ça, les commentateurs de la NBC
si.
ont été surpris quand ils ont vu Byron rentrer dans les stands. Mais au final, oui, Lilian a peut-être raison, mais je pense que c'est un des facteurs qui a mené à la victoire de William Byron, effectivement.
Donc voilà, la Hendrick qui du coup a son heure de gloire avec un doublé, William Byron devant Chase Elliott. Mais encore une fois, la Gibbs, bien placée, Denny Hamlin, 3e, Martin Truex Jr., décevant, 4e.
Elle a pas fait son pire, 2e.
Eh ben attends, c'est son pire résultat depuis...
Ouf. Un mois et demi ?
Un mois et demi.
Il était sur combien ? C'était 6 deuxième place, 7 ?
Non, sur 5 troisième place et 2 deuxième place.
Ah oui, c'était ça, oui. Autant pour moi.
Alors, depuis Kansas, donc il y a 7 courses, il était resté 5 troisième place et 2 secondes places.
Ah, le mauvais, tu es 4e. Oh là là.
Si on enlève Texas où il se manque, il fait 29e, il faisait second à Kentucky à la 17e course de la saison.
Oui, mais Truex, ça a été sur courant alternatif en début de saison et au moment de la reprise, enfin, il y a eu des petits soucis, il y a eu des petits couacs dans les stands, il y a eu des couacs en piste. Mais globalement, quand il n'y a pas de problème, il est là. Et quand il y avait des soucis, mais qu'il arrivait à aller au bout, il arrivait à sauver quelque chose. Mais c'était pas, on l'avait dit, hein, c'était pas le Truex flamboyant de 2019. Clairement, c'est Hamlin qui a repris le flambeau chez Gibbs. Et Hamlin est tellement au-dessus de tout le monde chez Gibbs cette année que bah, quand tu fais troisième chez Gibbs, c'est un mauvais résultat. Et voilà, quoi, Truex, ça reste solide. Et depuis de nombreuses années, Truex, c'est quand même un calibre de pilote. Enfin, ça fait partie des pilotes régulièrement tu cites pour être champion, quoi. Faut pas se mentir.
De toute façon, on est 2 sur 3 dans l'équipe à l'avoir pronostiqué en finale.
C'est ça. Et il est juste 4e du classement général à l'issue de la saison régulière à 171 points de Kevin Harvick. Et il est juste à peine 60 points de Denny Hamlin. Donc 60 points sur 26 courses, on n'est même pas à 3 points par course. C'est honnête, hein. Donc voilà, Truex, encore une fois performant. Bubba Wallace, qui c'est qui y a cru en fin de course ? C'est toi, Louis ?
C'est moi, ouais. C'était juste avant le dernier crash, donc juste avant l'overtime. Bah, il était premier, hein. Il avait obtenu la tête, et puis je pense qu'il peut largement en vouloir à Denny Hamlin et à Joe Logano qui ont fait de la merde.
Ça, c'est dit.
En vrai, je viens de regarder le final et on voit très clairement Denny Hamlin qui pousse Joe Logano totalement de travers. Et c'est ça qui enchaîne avec le crash dans le turn 1.
Mais bon, Bubba Wallace, c'est pareil. Hein. S'il avait obtenu la victoire, ça aurait mis un petit peu de
la pagaille,
de piment pour la qualification. Puis ça éliminait de facto Jimmy Johnson. Mais entre Byron et Di Benedetto, ça aurait peut-être été différent aussi.
Oh, puis vu le contexte aux États-Unis, ça aurait fait grand bruit.
C'est pas faux. C'est pas faux. Mais bon, Bubba Wallace à la Richard Petit Motorsports, écurie qui l'année prochaine pourrait être en Toyota avec Denny Hamlin en investisseur. Ça fait partie.
Et j'ai entendu parler de Michael Jordan aussi.
Ben, Michael Jordan étant très lié avec Denny Hamlin. Hein. Puisque la marque Michael Jordan est sponsor de Denny Hamlin.
C'est vrai.
Donc, bon, tout ça, il y a un petit faisceau quand même qui amène à penser que Bubba Wallace va rester à la Richard Petit Motorsports en 2021 et que l'écurie pourrait passer chez Toyota en tant que satellite de la Gibbs. Et là, les résultats pourraient prendre un coup d'ascenseur vers le haut.
Ah oui, je pense qu'il y a moyen de gagner entre 5 et 10 places cash sur chaque course.
Bah là, je pense que clairement, si ce que Geoffroy vient de dire se réalise, là, l'objectif de Bubba, c'est les playoffs, clairement. Ce sera le minimum syndical.
Ce sera le minimum syndical, parce qu'il est 22e. Il n'est qu'à 6 points de Cole Custer. Qui d'autre Christopher Bell, on peut comparer en disant que c'est à peu près le même matériel?
Bah, j'ai envie de dire Matt Di Benedetto, qui est en satellite de la Penske.
Ouais, bah, Matt Di Benedetto en satellite de la Penske, il lui met 90 points, quoi. 96.
Ouais, ça fait presque deux courses. Hein.
Ça commence à faire. 96 points sur 26 courses. Ouais, non, tu n'y arrives pas, ça fait 4 points par course. Hein. C'est 4 places.
C'est pas énorme, hein, moi je dis.
C'est ça, il y en a un qui est top 15, l'autre qui est top 20.
Et 4 places avec du matériel Gibbs, il va largement faire les chercher.
Et puis surtout, oui. C'est quand même, entre guillemets, si cela se confirme à nouveau, ce serait la renaissance de la RPM, qui est tombée dans la déchéance depuis une bonne décennie déjà. Avec Casey Kane, c'était le haut du panier.
Par contre, il n'y a que Max Ashok, Richard Petty, Toyota.
Ouais, j'avoue que c'est... Oui. j'ai pensé.
Après, il faut faire des concessions, hein.
Oui, il faut faire des concessions, surtout en automobile. Ça me choque un petit peu. Après, voilà. Parce que Richard Petty a un passif glorieux à une époque où la NASCAR était 100% avec des marques américaines. Et voilà, on sait que Toyota est arrivé sur le marché en NASCAR parce que Toyota produit des Camry aux États-Unis, ce qui rend possible son adhésion au championnat.
Je suis en train de regarder l'histoire de la Richard Petty Motorsports en Cup et je vois que quand même en 2009, donc ça remonte déjà un bout de temps, c'est il y a 11 ans, coup de vieux, l'RPM avait 4 voitures engagées à plein temps en NASCAR.
Oui, c'était à l'époque
voitures.
De...
T'avais Casey Kane, t'avais Elliot Sadler, t'avais Eddie Allmendinger et t'avais Rich Sorensen.
Oh là là!
Enfin, dans le lot, il y en a quand même qui ont disparu de la circulation.
Il est vrai.
Ah bah, Rich Sorensen.
À cette époque-là, Casey Kane dans la 9, c'était vraiment très solide.
Ah, il n'était pas encore chez Hendrick.
Mais je ne sais pas si tu te souviens de cette époque-là. C'était à l'époque de où la Petty Enterprises. Avait un pied et 5 orteils dans la tombe et c'était une fusion avec la Gillette et Evernham Motorsports. Donc c'était oui, en fait 2x2 qui s'étaient associés, ils s'étaient bien trouvés et on avait conservé toutes les voitures mais de 4 on était rapidement passé à 3 puis à 2 puis à 1 quoi.
Non mais c'est vrai qu'à une époque on redoutait vraiment d'apprendre la fermeture de la RPM. Et ils se sont sauvés vraiment, je vais dire, par la peau des miches. Hein.
Ah bah oui, ça a été compliqué pour la Richard Petty Motorsports, enfin même pour l'équipe Petty dans son ensemble, quelle que soit son appellation.
J'ai envie de dire quand même merci aux sponsors historiques, pour ne pas le citer, un fabricant d'huile moteur.
Oui, c'est vrai que ça a aidé.
Je pense que la confiance en Bubba Wallace est en train de payer. Et c'est une bonne chose, un, pour Bubba Wallace, et deux, également, au même titre, pour la Richard Petty Motorsports.
Effectivement. Alors, messieurs, je pense que Daytona, on a fait le tour. On ne va peut-être pas retaper sur Kyle Busch, qui continue quand même sa saison cauchemar.
Ouais, mais c'est toujours aussi drôle.
Est-ce que tu as vu le tweet de Kyle Busch à l'issue de la course?
Ah bah oui, puis Rossi l'a retweeté, c'était génial.
C'est ça, les deux sont tweetés, j'ai trouvé ça excellent. Quoi.
Les deux pleureuses là, de chaque série, c'est génial. Ils partiront en vacances ensemble et puis ça ira.
Ouais, mais c'est fou quand même pour Kyle Busch, tu te dis. Quand ça veut pas, ça veut pas, quoi. On sait que le talent est là, on sait que le matériel est là, mais non, quoi. C'est plus un grain de sable, quoi. C'est un galet dans la mécanique. Le truc, ça tourne carré, quoi.
Ouais, parce qu'il est encore aux avant-postes à Daytona, et puis, c'est encore une fois planté, quoi.
Mais bien sûr. Mais tu sais, c'est le pilote, si cette année, tu sais, il devait y avoir à Homestead, par exemple, un pilote chez Gibbs, à qui on inverse les roues droites et les roues gauches, ce serait pour Kyle Busch cette année, tu vois. C'est malheureux, mais c'est ça, quoi.
C'est vrai.
C'est Et enfin, on en rigole, mais c'est quand même arrivé pas plus tard que l'année dernière sur la finale, et chez Gibbs.
Ah bah donc, ouais, mais chez Truex.
C'est chez Truex. Non, chez Hamlin.
Non, c'est Truex, je crois, non ?
C'était Truex ? Bah, je sais plus.
Pour moi, c'était Truex, hein.
À confirmer, ah, mais ouais, non, pour moi,
ah, je sais plus.
Je me rappelle des images, mais je resterai sur Truex, ouais.
Ouais, possiblement. Vous me faites douter, mais bon. Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme pilote à signaler sur cette course ?
Non, après. Mais, en regardant les résultats avant de commencer l'émission, j'ai pas fait gaffe, mais je viens de voir que Brendan Gaughan fait 8e de cette course.
Oui. Pour ça, pareil, possiblement, dernière course en carrière.
Je crois bien qu'il va annoncer que c'était sa dernière course, effectivement.
Ah non, 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 pardon, son avant-dernière. Il fera Talladega.
Ah oui, j'avais oublié Talladega.
Il en fait 4 par an et il en a, oui, c'était la 3e.
Cette année, il en a fait 5. Enfin, cette année, il en fera 5. Puisqu'il a dit qu'il faisait toutes les courses de Daytona et de Talladega du championnat, donc du coup, il a fait la routière.
Ah, ok.
Même que je crois que c'est lui qui avait tweeté qu'à l'époque, quand il faisait la course sur le circuit routier en GT, il freinait au panneau 1. Il avait dit, si là, je le fais sur la chicane, je termine sur l'aéroport.
Ah, c'est pas les mêmes performances de freinage.
C'est clair. Donc, que peut-on dire d'autre sur cette course de Daytona ? Je pense que globalement, on a fait le tour.
Mais qu'est-ce que vous avez pensé de Daytona déplacé en dernière course de la saison régulière ?
Bah, finalement, vu que c'était quand même globalement joué, ça nous en a fait. Ça a été moins un foin que ce que certains disaient, ce serait un scandale, machin, ce serait le bordel et tout.
Ça a été une belle course. J'avais un peu peur de ça, moi.
Mais je trouve quand même que pour suivre l'évolution des pilotes et enfin la compétition entre ceux qui veulent se qualifier, une course super speedway, c'est quand même assez passionnant d'un point de vue spectateur. Et je pense que dans la voiture, ça doit être également assez palpitant. Ils doivent avoir l'adrénaline au max. Et au final, on pensait qu'il allait y avoir plein de crash. Bah, pas du tout. C'était une course plutôt propre, mais intéressante pendant les
64. Ouais. Mais je pense aussi, ce que je disais tout à l'heure, je pense que le nouveau package aéro joue beaucoup.
Oui.
Oui, oui, c'est clair. Mais je voulais rebondir aussi sur ce que disait Loïs. Pourquoi à Daytona on s'est régalé ? Mais parce que sur les 1,5 mile, on se fait chier et c'est pas nouveau.
Il a pas tort.
Mais non, mais entre le package aéro et le PJ One, enfin merci, il est 1,5 mile.
La domination d'Harvick et d'Hamlin.
En plus. Et non, mais c'est vrai. Et j'écoutais un podcast tout à l'heure sur YouTube. Bah, c'est exactement ça. C'est clair, 1,5 mile, on s'ennuie. Et bah oui, là, forcément, c'est clair qu'un Daytona, c'était top. Franchement, c'était top. Et il avait justement les chiffres. Je crois qu'NBC a eu 1 million de téléspectateurs en plus sur la finale de la saison régulière.
Oui, ça calme. Mais de toute façon, ça fait quand même quelques temps aussi qu'on le dit. Enfin, les ovales d'un mile et demi, enfin les ovales intermédiaires dans leur ensemble, c'est pas forcément tip top caviar, hormis deux ou trois, Darlington, Atlanta, voilà, qui font un petit peu figure d'exception. En général, les short tracks, ça peut être très très drôle. Donc voilà. Maintenant, on a nos pilotes pour les playoffs. On a un premier tour avec Dover, Bristol, Richmond, qui est alléchant.
Déjà, oui, déjà, ça, sur le papier, ça envoie quand même. Hein.
Mais sur le papier, ça envoie. Tu as 16 pilotes qualifiés. Globalement, les 16 meilleurs de la saison, c'est pas un scandale. Mais comme partout, ça reste les pilotes qui font la course. Et s'ils n'ont pas envie de prendre de risques, tu peux avoir une course monotone parce que avant de penser à gagner, faut déjà penser à ne pas perdre. Et c'est peut-être aussi ça le mal de la NASCAR des années 2000, 2010, 2020. Alors, messieurs, à moins que vous vouliez ajouter encore quelque chose sur Daytona, je vous propose de faire un petit point sur les 16 pilotes qualifiés pour les playoffs. Eh bien, vu que vous êtes d'accord avec moi, on va commencer. Ah, là, qui c'est qui ne dit mot qu'on sent ?
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ouais.
C'était un accord tacite.
C'est ça, c'est... On va commencer par le 16e qualifié, messieurs, Matt DiBenedetto, 29 ans, première qualification en playoff. Donc, pilote de la Wood Brothers Racing, 26 départs cette année, 2 top 5, 7 top 10, 51 tours menés, 13,6 en moyenne au départ, 15 en moyenne à l'arrivée, aucun point de playoff. Donc, il démarre 16e avec 2000 points. Je suis en train de vérifier est-ce qu'il y a d'autres choses que.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. En 2019, il a fait 22e, donc il améliorera son meilleur classement en carrière. Kurt Busch, est-ce que tu veux en dire deux mots, Lilian, sur Kurt Busch ?
Kurt Busch, non, pas plus que ça. Kurt Busch, qu'est-ce qu'il a fait cette année ? Il a décroché. Non, il s'est qualifié au point aussi.
Cette année, 4 top 5, 10 top, 14 top 10, une pole, 91 tours menés, 10,3 au départ, 13,4 à l'arrivée, un point de play-off, donc c'est une victoire de segment, et c'est tout.
Pilote de la Chicanassi, on peut le redire.
Oui, premier pilote champion de l'histoire de la NASCAR avec le format des playoffs et 3 victoires en playoffs, messieurs, pour Kurt Busch, si vous êtes capable de me les donner.
Oh, des playoffs ?
Ouais.
Oh, alors ça, je peux te les retrouver si tu me laisses.
Il n'y a pas Chicagoland ?
Non, il n'y a pas de Chicagoland, non.
Alors, attends.
Il a gagné la première course de l'histoire des playoffs, New Hampshire en 2004, Texas en 2009. Et Dover en 2011. Voilà.
Ah bah faut les sortir celle-là. Hein.
Pardon ?
Faut les sortir celle-là.
Ah oui, non mais bon, on peut aussi donner des bonnes infos de temps en temps quand même.
Il faut essayer.
C'est ça. Qui arrive 14e, et ça je sais que ça va te faire plaisir, Aloïs, c'est Kyle Busch. Encore reparler de lui. 35 ans, 26 départs cette année, 0 victoire, je pense qu'on en a suffisamment parlé tout au long de la saison. 11 top 5, 13 top 10. Donc, en gros, quand il est dans le top 10, il est dans le top 5. Aucune pole, 245 tours menés, une place moyenne au départ de 10,1, à l'arrivée de 15,2. 3 points de play-off, donc pour 3 victoires de segment, ce qui fait qu'il commencera la saison avec 2003 points, double champion en 2015 et 2019. Et il est systématiquement dans le Final Four depuis 2015. Premier, troisième, deuxième, quatrième, premier. 7 victoires pendant les playoffs. Donc, voilà pour un petit peu pour Kyle Busch. Est-ce que. Non, on a suffisamment parlé tout à l'heure. Je pense qu'on ne va pas remettre une pièce dessus. J'allais dire quand il est en playoff, il est toujours dans le top 10 au classement. Non, c'est faux. En 2011, il avait terminé 12e. Et Kyle Busch, il a la même particularité que son frère. Ce sont les deux seuls pilotes qualifiés cette année pour les playoffs qui n'ont pas forcément fait toutes les courses des playoffs quand ils étaient qualifiés, puisque Kyle Busch avait manqué une course en 2011 pour suspension et Kurt Busch en avait manqué deux en 2005. Voilà. Clint Bowyer, Aloïs, Clint Bowyer, ça t'intéresse ou ça t'intéresse pas ?
Clint Bowyer, ça risque d'être compliqué au même titre que Kurt Busch, dont on a parlé il y a quelques secondes. Ceci dit, le premier segment des playoffs lui convient plutôt, en termes de piste, avec plutôt du short track et Darlington, qui est un circuit assez typique et qui lui réussit plutôt régulièrement.
Effectivement. Donc, 2 top 5, 7 top 10, une pole, 182 tours menés, 13,6 au départ, 14,7 à l'arrivée. 4 victoires de segment, donc 2004 points au départ des playoffs. C'est la première fois de sa carrière que Clint Bowyer se qualifie 3 années de suite pour les playoffs. Je sais, c'est une stat qui sert à rien, ou pas, mais voilà, je la trouve sympa. 4 victoires en playoffs pour Clint Bowyer en 2007, en 2010 et en 2012. Il en avait gagné 2 en 2010. Et son meilleur classement depuis qu'on a le Final Four, c'est 9e l'année dernière. Harry Almirola, Lilian, tu veux en dire deux mots ?
Harry Almirola, avec sa deuxième bonne partie de saison, il pourrait nous faire un petit quelque chose, même si j'y crois pas trop. Pourquoi pas ?
5 top 5, 14 top 10.
Ouais, voilà, 14 top 10 en 26 courses, ouais, voilà, quasiment du, ouais, c'est du 1 sur 2. Pourquoi pas ?
12e avec 2005 points et il a une victoire en playoff à Eric Almirola. Talladega en 2018 qui est d'ailleurs son meilleur classement en carrière. Ils étaient classé cinquième du championnat. Cole Custer, Aloïs, rookie pour les playoffs, puisque de toute façon, il est rookie cette année.
Il fallait le trouver celui-là quand même. Hein.
Mais comme Matt DiBenedetto, première participation en carrière en playoffs, c'est le plus jeune du peloton, 22 ans. Et cette année, une victoire, deux top 5, 6 top 10, 5 tours menés, 21,1 au départ et 19,9 à l'arrivée. Pareil, il commence les playoffs avec 2005 points.
Ce sera une année découverte dans les playoffs pour Cole Custer, que du bénéfice, puisque en tant que rookie, c'était assez improbable qu'il se qualifie. Il a glané une victoire de fort belle manière un peu plus tôt dans la saison. Et il faut qu'il en profite pour gagner de l'expérience, de la confiance. Et qu'il passe ou non le premier tour, je pense pas que ce soit très grave. Pour la suite de sa carrière ou même pour l'analyse de sa saison qui est d'ores et déjà réussie.
Ce n'est que le troisième pilote à être rookie et à se qualifier pour les playoffs. Est-ce que vous êtes capable de me citer les deux autres?
Denny Hamlin.
Ouais, quelle année?
Je dirais un truc genre 2006-2007.
2006, ouais, bien vu. Ah bon, ouais. Et l'autre?
Peut-être Chase Elliott.
Bien vu.
Ah, bien
en
joué.
Quelle année?
En 2020. 2014,
15?
Bah, j'aurais 2016. Dit 16.
2016. Voilà, c'est bon, j'en ai fini avec mes pièges.
Interro surprise.
C'était l'instant. Ouais, c'est ça.
Allez, Austin Dillon, il sera 10e du classement Lilian au départ des playoffs avec 2005 points. Une victoire, c'était au Texas. Deux top 5, 7 top 10, 80 tours menés. 17-3 au départ, 16-9 à l'arrivée. Il a participé aux playoffs.
Ce doit être la deuxième fois qu'il se qualifie, non?
Non, la troisième fois. Par contre, il faut que je vérifie les stats parce que là, il y a un truc qui ne va pas. 2016, 2017, 2018. On m'annonce zéro départ en 2018, mais 3 top 10 en playoffs. Donc, il faut juste qu'on explique comment il arrive à faire 3 top 10 en ne prenant pas le départ.
C'est une aberration.
Non, c'est une aberration. Non, ça, il a fait les playoffs en 2018, il est 13e du championnat. Donc voilà.
La saison de Dillon, quoi qu'il en soit, est plutôt réussie au final. Ça permet d'illustrer les bonnes performances de la Richard Childress Racing dans son ensemble. Oui. Le bon coup de fouet en 2020 avec Tyler Reddick. Donc je pense que c'est... Ça illustre bien les performances de son écurie en 2020. Et là encore, au même titre que Cole Custer, je pense que c'est déjà une saison réussie pour le pilote de numéro 3.
Voilà. Partir à 9e des playoffs, William Byron. On ne va pas forcément s'étaler sur le pilote de la Hendrick, on en a parlé. Une victoire de top 5, 9 top 10. 2007 points pour débuter les playoffs. Et c'est sa seconde participation puisqu'il y était l'an dernier. 8e, Alex Bowman, pareil, une victoire, 3 top 5, 8 top 10. On a l'impression que ces top 5, c'était tous avant la trêve pour Alex Bowman.
C'est tellement transparent depuis la reprise.
C'est ça, il va débuter avec 2009 points. Il faut qu'on arrête de dire depuis la reprise, parce qu'en fait, la reprise, c'était il y a 3 mois maintenant.
Bah ouais, mais malheureusement, pour Bowman, c'est tellement discret.
Il n'a pas repris, en fait, on n'y a pas dit.
C'est ça.
Et c'est sa troisième participation en playoff. Il avait fait 16e en 2018, 12e l'année dernière. À voir s'il est sur la pente ascendante, si ça va se confirmer ou non. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Ok, j'ai rêvé. Le septième, ce sera Ryan Blaney avec 2013 points, une victoire, 8 top 5, 11 top 10. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Ryan Blaney? Et deux victoires en playoff, Lilian, pour Ryan Blaney.
Oh, il en a eu une à Talladega, non?
Talladega l'année dernière. Et Charlotte sur le circuit routier en 2018.
De manière, Talladega, pendant les playoffs, c'est un peu la chasse gardée des Penske depuis plusieurs saisons. C'est hyper régulier.
C'est touché pas, quoi. C'est le Talladega Penske Raceway.
C'est pas le bon circuit qu'il a acheté, Roger.
Ceci dit, pour rester pragmatique sur les playoffs de Ryan Blaney, ça peut soit se faire sortir au premier tour, soit aller, disons, jusqu'au top 8. Je pense que...
Oh, top 8, effectivement.
Oui.
Ouais, je pense que top 8, ça passe.
Oui. Mais je veux dire que il était assez assez irrégulier au cours de la saison. Ça pouvait jouer la victoire comme sortir un résultat hors du top 30. Ce serait bien que ça ne se reproduise pas pendant les playoffs et je n'en suis pas certain. Donc j'ai quand même un doute sur Ryan Blaney qui c'est assez irrégulier et en général, c'est pas forcément la bonne formule lors des playoffs.
Effectivement. Allez, sixième avec une victoire, 11 top 5, 17 top 10, 14 points de playoff, donc il va commencer avec 2014 points. C'est Martin Truex Junior, Lilian. Martin
Seulement une
Truex Junior.
victoire, t'imagines qu'on est au sixième et il a qu'une victoire.
Hey, non mais attends,
Non, 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 mais
il y a des cannibales devant, quoi.
non, non, mais c'est ça qui fait peur, quoi. Tu me dis le sixième avec une victoire.
Mais tu vois déjà, tu penses de Ryan Blaney à Martin Truex Jr., pour moi, il y a un monde de différence. Les six premiers sont vraiment pas dans la même galaxie que le reste, enfin sur les 10 autres pilotes qui sont présents au playoff, à mon sens.
Si on est pragmatique, ton monde de différence, c'est un point. C'est un point au classement, puisque Ryan Blaney aura 2013 points et Martin Truex Jr. en aura 2014.
Mais si tu regardes les 2 derniers mois de compétition, pour moi, il y a un monde de différence. Je suis désolé.
Ah
Ah
ouais, oui,
ouais,
t'avais.
mais t'en as un qui fait que deux ou troisième pendant deux mois quasiment, forcément.
C'est ça, et le mauvais résultat, c'est quatrième. Ça va, quoi. C'est. Bon,
Que pour moi,
donc.
à la défense de Blaney, je l'ai jamais. Il m'a jamais semblé aussi performant que cette année, tu vois. Alors oui, parfois il y a eu des contre-performances, mais on l'a jamais autant vu aux avant-postes que cette année.
Effectivement.
Et j'exclus pas une petite surprise pour Ryan Blaney. Je mets une petite pièce sur Ryan Blaney.
Bah, tu vois, pour moi, la surprise, c'est qu'il se fasse éliminer dès le premier tour. C'est-à-dire que, à l'inverse, je le vois aller quand même relativement loin dans les playoffs. Mais, à un moment, il y a un plafond de verre qui existe, pas entre Ryan Blaney et le reste de la compétition. C'est mon argument que je voulais mettre en avant
D'accord.
pendant cette discussion.
Alors, Martin Truex Jr., sa sixième participation aux playoffs, messieurs, consécutive. Et depuis que ce format d'éliminatoire existe, il a toujours été en finale, sauf en 2014, puisqu'il n'était pas en playoffs, et en 2016, où il termine 11e. Ses 3 dernières saisons, premier, deuxième, deuxième, 9 victoires en playoffs. Réparti entre 2016, 2017 et 2019. Donc, bah, potentiellement, un pilote qui est capable de pousser l'interrupteur des playoffs et de nous faire quelque chose de très intéressant. À la cinquième place, Lilian, avec deux
Joey
victoires,
Logano.
10 top 5 et 15 top 10. Eh ben non, ce n'est pas Joey Logano, c'est Chase Elliott, 20 points de playoffs.
Ah oui, je l'avais oublié, le petit.
Et oui, Chase Elliott, cinquième participation consécutive. Il n'a jamais fait le Final Four, puisque ses meilleurs classements, enfin ses classements, c'est dixième, cinquième, sixième et dixième. Donc en fait, il se fait toujours éliminer dans le.
Dans les
Enfin,
huit.
il se fait toujours éliminer dans les 8, quoi.
Bah,
Enfin, en
cette année,
2017-2018, ouais.
je pense que oui, cette année, moi, je le vois pas aller
Non.
au-delà des huit. Donc, je le vois échouer aux portes de la finale encore. Mais voilà, je pense que il y en aura plus d'un qui le pronostiquera dans les quatre pour la finale à Phoenix.
Bah, tu vois, moi je suis pas du même avis que toi. Pour moi, cette année, c'est sa première participation à la finale bah, de Phoenix. Du
Ah, et
coup,
en même temps, tu le vois champion dans tes rêves les plus fous. Donc,
mais faut bien rêver, hein.
ouais. Mais nous, c'est notre pire cauchemar, ton affaire.
Ah, bah, chacun son problème, hein.
C'est ça. Figurez-vous quand même que Chase Elliott, il a une stat sur laquelle il est meilleur que tout le monde parmi les 16 pilotes des playoffs.
Que c'est le
C'est
pilote le
ça.
plus populaire?
Non, j'ai parlé de statistiques, j'ai pas parlé de faits externes à la course.
Ah, d'accord.
Sur on
C'est
va la
sa
plaque,
place.
peut-être.
Non plus. C'est sa place moyenne au départ. 9,6. Personne ne fait mieux que lui.
Ouais, ça,
Voilà.
tout le
Ou
monde
en
s'en moque,
playoff?
ça.
Ouais, comment ça, tout le monde s'en moque? C'est la même chose pour Joey Logano. 9,6.
On part sur l'histoire en playoff ou cette saison?
Non, non, en playoff, en playoff.
Ok.
Non, non, en saison, il y a juste pas mal, si tu veux, j'ai mis des coups de stabilo pour Kevin Harvick. Et puis c'est tout. C'est un truc de fou. Je crois que j'ai juste pas compté les pôles parce que les pôles, ça compte pas cette année. Mais Joey Logano, on va en parler un petit peu de Joey Logano, puisqu'il va débuter les playoffs en quatrième position avec 2022 points, 2 victoires, 6 top 5, 14 top 10 en 2020. Une place moyenne au départ de 6,9 et une place moyenne à l'arrivée de 13,5. Et c'est le meilleur en pourcentage de dépassement dans le top 15, avec 69% de dépassement dans le top 15 qu'il a fait, Joey Logano. Voilà, ça qui sert peut-être à rien, les
Et
pourcentages.
ben pourtant, il m'a jamais semblé aussi faible que cette année, Joey Logano.
Oh, faible, c'est quand même un grand mot, hein.
Alors, je trouve que par rapport à ses saisons précédentes, c'est un cran en dessous, tu vois. Autant Blaney, je vais trouver que c'est au-dessus. Logano, pour moi, des trois Penske, je trouve que c'est le moins bon cette saison.
Moi, je dirais moins incisif. Il est peut-être moins agressif que les autres années. Et justement, cette agressivité, ça lui a causé des torts en playoff. On dit bonjour à Matt Kenseth. Je sais que ça rappelle des souvenirs à certains, mais
2015.
exactement. Mais si on regarde justement comment on a fait avec Martin Truex Jr. Depuis, on va dire, et depuis Texas, il n'y a qu'un seul résultat en dehors du top 10 et on enlève Daytona. Et cette course-là, c'est Kansas et il a connu un crash. Donc, tu vois, si tu rentres dans l'état, c'est 3, 4, 8, 5, 9, 8, 6. Je pense pas que ce soit mauvais.
Presque le numéro du loto que tu nous donnes. Mais
Essayez-le ce soir, on sait jamais, hein, ça peut fonctionner.
non, je crois que tu as dit 2 fois 8, donc ça passera pas.
Eh oui.
Joey Logano en playoff, donc c'est pas forcément tous les ans. Il a manqué en 2016, il avait manqué les playoffs notamment. Et depuis que le format des éliminatoires existe, donc il était quatrième en 2014, donc dans le Final Four. Dans le Final Four en 2016, il termine deuxième derrière Jimmy Johnson. Et en 2018, il est champion. L'an dernier, il avait fait cinquième. Et c'est le meilleur des pilotes au départ et à l'arrivée en place moyenne, à chaque fois avec 9,6. Et Joey Logano, c'est quand même 9 victoires en playoff. Ça commence à causer 9 victoires en playoff, réparties entre 2014, 2015, 2016 et 2018. Et là, on va commencer à arriver tout doucement sur la crème de la crème. On commence avec Brad Keselowski, Lilian. 3 victoires, 9 top 5, 19 top 10, 638 tours menés.
Ah là, ça commence à
8,5,
parler en effet.
c'est ça, 8,5 au départ, 9,7 à l'arrivée, 29 points de playoff. Brad Keselowski, c'est 8 saisons, enfin, donc sa 9e participation en playoff, c'est 6 victoires. Champion en 2012 hors playoff, une seule participation au Final Four, c'était en 2017. Qu'est-ce que tu veux l'autre comme stat, hein? 2031 tours menés pendant les playoffs en 8 participations.
Il y a combien de victoires à Talladega?
Ah, bah attends, je vais te dire.
Oh, il en met au moins
Talladega.
trois.
Non, il n'y en a que deux.
Ah, il n'y en a que
Talladega
deux.
2014 et 2017.
Ok.
Mais on
Il y en a
parlait
deux.
de
Oui.
Joey Logano juste avant et je disais qu'il n'était pas très incisif. Bah, à l'inverse, cette saison, je trouve que Brad Keselowski n'est pas aussi fringant sur la durée. Mais quand il joue la victoire, en général, ça fait mouche.
C'est vrai que
Et
c'est
là
surprenant
encore, c'est un
l'alternative, mais
point
bon.
positif pour les playoffs.
Ouais.
Le format demande ça, c'est clair.
Donc, est-ce que Brad Keselowski va arriver à atteindre le top 4 et non Joey Logano, ou est-ce que ce sera l'inverse? Je pense que ça pourrait nous tenir en haleine sur les courses de Kansas, Texas et Martinsville.
On passe au demi-dieu. Denny Hamlin,
Aïe, aïe, aïe.
6 victoires, 15 top 5, 17 top 10, 771 tours menés, 10,3 au départ, 8,9 à l'arrivée, 47 points de playoff, un driver rating à 103,0, une place moyenne en piste à 10,8, 419 meilleurs tours cette année, 69,3% de ses tours dans le top 15. 13 qualifications en playoff, donc c'est sa 14e, 8 victoires pour les playoffs, 44 top 5, 73 top 10, 10 pôles, c'est le record, 2605 tours menés, 13,1 au départ en playoff, 12,7 à l'arrivée, et seulement 2 fois dans le Final Four, c'était en 2014 et en 2019. Bon, quand on voit la saison, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est l'année ou jamais.
Bah, on est, Aloïs et moi, ouais, on est 2 sur 3 ouais, à le pronostiquer comme étant champion.
Bah, en fait, j'ai voulu
Avec
faire
la même
différentes coupes.
justification, on aurait pensé à Harvick tous les deux, Aloïs et moi, mais on se dit que pour Hamlin, si c'est pas cette année, ça le sera jamais.
Mais
Et
ça ne
ça,
veut pas dire qu'il gagnera non plus, hein, en se disant c'est l'année ou jamais.
Non.
Ceci dit, Denny Hamlin, si on regarde d'un point de vue comptable, certes, il est un tout petit peu derrière Kevin Harvick, mais il est le seul à rivaliser avec Kevin Harvick en piste.
C'est celle qui le regarde dans les yeux, hein.
Exactement.
Car c'est
Et
le seul.
il a l'ascendant psychologique, si on peut dire ainsi.
Mmh.
Et en tout cas, s'il n'arrive, on en a déjà parlé plusieurs fois lors des dernières semaines, mais s'il ne remporte pas le titre en fin de saison à Phoenix, il peut partir à la retraite et remballer toutes ses valises parce qu'il
Ah,
gagnera jamais.
celui. Et il a déjà préparé le terrain puisqu'il veut investir dans Richard Petit. Chez Richard Petit.
La Suisse.
Il pense déjà à la reconversion.
Bah, il le dit lui-même, hein.
Oui. Alors, oui, clairement, enfin, c'est pareil, hein, j'ai pas mis Denny Hamlin champion parce que j'avais envie de mettre autre chose. Mais, enfin, Denny Hamlin, Kevin Harvick, c'est quand même tellement au-dessus cette année que voilà, fallait en choisir un des deux. Mais clairement, si Hamlin ne gagne pas cette année, à 40 ans, enfin 39 ans, il aura 40 ans le 18 novembre. Je le vois pas rester mobilisé pendant des années au plus haut niveau à courir après
Un titre.
une chimère depuis des années quoi. 2000, je me souviens de la saison 2010. Oui, c'était en 2010 où il se prend les pieds dans le tapis à Phoenix et malgré ça, il arrive à Homestead en tête et il se reprend les pieds dans le tapis dès le début de la course et c'est Johnson qui va être champion. Je crois que c'est
Oui,
2010. Hein.
et il a mis combien d'années à s'en remettre? 2, 3 ans? Oui, il a rien fait ou presque.
Bah attends, 2010, deuxième, 2011, neuvième, 2012, sixième, 2013, pas en playoff, 2014, troisième,
Oui, donc c'est
2015,
ça.
neuf. Ouais, c'est ça, c'est 4 ans. Et
Après, si on regarde les pistes présentes au playoff, c'est à peu près les pistes préférées de Denny Hamlin. T'as Richmond,
ben.
Bristol, il peut en claquer une sur le premier tour. T'as la dégâts facile également. Texas, c'est dans ses cordes. Martinsville, évidemment. Et puis Phoenix, bah, ça
Et
sera les yeux dans les yeux avec Kevin Harvick, hein.
c'est clair. Les 8 victoires en playoff quand même pour Denny Hamlin. Donc t'as Martinsville et Homestead en 2009, Martinsville et Texas en 2010, New Hampshire en 2012, Chicago en 2015, Kansas Phoenix en 2019. Donc quand même pas mal de pistes qui sont encore d'actualité cette année.
Et c'est surtout les pistes dans la seconde partie des playoffs. C'est celles qui
Oui.
comptent le plus.
Bah, de toute façon, on a toujours dit qu'avec ce format-là, si Denny Hamlin arrivait au troisième tour, Denny Hamlin avait une place en finale pratiquement quand on voyait à l'époque le fait qu'il y ait Martinsville, Phoenix et le Texas en dernier tour des playoffs. Et on va terminer ce top 16 avec bah, le leader du championnat, le pilote le plus âgé des playoffs, 44 ans, Lilian, c'est Kevin Harvick.
Attention les stats.
Alors là, ça pique. 7 pôles, 7 pôles, 7 victoires, pardon, 17 top 5, 21 top 10, 1117 tours menés,
Ouch.
8,9 en moyenne au départ. Donc ça, c'est pas le record cette année. Je ne sais plus qui l'a, mais
Je...
bon, vu que ça compte pas, fin, vu que les qualifications ont été annulées une bonne partie du temps, voilà. 6,6 en moyenne à l'arrivée, un record. 57 points de playoff, donc bah, large leader.
57 points déjà à la base, il a plus d'une course d'avance, quoi.
Il avait 42 points au cours de la saison, et puisque c'est le vainqueur de la saison régulière, bah, 15 points gratos.
C'est ça. 109,7 de driver rating,
Oh là là.
8,4 en position moyenne en piste, 612 meilleurs tours, 86,3% des tours dans le top 15.
Bonne nuit, à la semaine prochaine.
C'est ça.
Oh.
Non mais
Alors,
sur...
t'as ces stats de psychopathe, quoi.
Ah ouais, mais c'est carrément, c'est psychopathe. Je regarde les 10 dernières courses, même un petit peu plus. T'es premier à Pocono, deuxième sur seconde course, premier à Indianapolis, 4-5 à Kentucky, Texas, encore 4-5 à Kansas, Loudon, premier à Michigan. Bon, il fait 17e sur la course Rolex Daytona, mais je pense qu'il s'en battait un petit peu les couilles.
Ouais, s'il te plaît.
Soyons honnêtes. 4e et premier à Dover. Et là encore, Daytona sur l'ovale. Il n'a pas forcément pris beaucoup de risques. Et puis, il a été impliqué dans un accident pas très grave. Donc, si on enlève les courses où il n'a pas eu beaucoup d'intérêt, depuis Pocono, donc 12 courses, bah, la plus mauvaise place, c'est 5e. Voilà.
Bon, on passe au stade des playoffs, histoire de mettre la seconde lame. Donc, c'est sa 11e qualification consécutive. C'est sa 14e en carrière. Donc, bah, 130 départs, forcément, c'est celui qui en a le plus parmi les pilotes qualifiés. 14 victoires, celui qui en a le plus. 47 top 5, 85 top 10, 8 pôles, 4206 tours menés, 42 256 tours parcourus. Et depuis 2014 que les playoffs existent sous ce format-là, son classement à l'arrivée au championnat, premier, deuxième, huitième, troisième, et troisième.
Ouais, il est quasiment tout le temps dans les quatre.
Il a été...
Sauf une année.
Ouais.
S'il faut relativiser, moi, ce que je vois, c'est qu'il n'a qu'un titre et qu'il s'est toujours foiré sur la dernière course. Enfin, il s'est très souvent foiré sur la dernière course.
Globalement, celui qui gagne la dernière course, c'est quand même celui qui avait un petit truc en plus tout au long de l'année. En 2015, Kyle Busch... Alors, OK, Kyle Busch est blessé une partie de la saison, mais quand il revient,
intouchable.
Il est sur une autre planète, quoi. Il marche sur l'eau. 2017, qui est-ce qui est champion ? Martin Truex Jr. Il nous sort quand même la saison de sa vie quand on est au volant d'une voiture de la Furniture Racing, il faut quand même être honnête. 2018, Joey Logano, je ne me souviens plus de tout, mais ça ne me choquait pas qu'Harvick ne soit pas forcément champion. Et 2019, Kyle Busch.
Sur le hold-up à Miami.
Oui, voilà, Kevin Harvick, je ne vais pas dire qu'il ne méritait pas d'être champion en 2019, mais bon, Kyle Busch, c'était pas non plus mérité, et la Gibbs était au-dessus l'année dernière, quoi. Donc,
voilà. Après, honnête, si on remonte à 10 ans de cela, quand Kevin Harvick était à la Richard Childress Racing, enfin, quand il se traînait à la Richard Childress Racing, jamais je n'aurais imaginé qu'il en soit là à l'heure actuelle, pour être honnête.
C'est ça. Parce que les playoffs ont commencé en 2004, et de 2004 à 2009, donc sur les 6 premières saisons, il se qualifie en 2006, 2007, 2008.
Et franchement, la saison 2009, mais c'était un calvaire à regarder, pour être honnête.
C'est ça.
Je m'en souviens encore. Hein. Et il archi-domine le championnat 10 ans plus tard, à 44 balais, donc quasiment l'heure de la retraite. C'est quand même fort. On s'en rend pas compte, mais c'est 56 victoires, ce qui n'est pas rien. Et c'est possiblement l'un des meilleurs pilotes de l'histoire de la NASCAR.
Oui. De toute façon, il va finir au Hall of Fame, c'est une certitude aussi. Donc. Et on parlait souvent de Mark Martin, fut une époque qui était le... Comment ? Bah, Mark Martin, c'est celui qui n'a jamais été champion en NASCAR, quoi, 5 fois deuxième. Et bien, figurez-vous qu'on a le Mark Martin des Mark Martin, c'est-à-dire Kevin Harvick, qui a quand même une stat assez énorme en carrière. Il a été 6 fois troisième du championnat. 2010, 2011, 2013, 2017, 2018, 2019.
Et tu je trouve, quoi.
Ah ouais, c'est 6 fois sur l'année 2010, quoi.
Et 6 fois sur la décennie 2010, ouais. C'est quand même très fort.
Tu peux rajouter deuxième en 2015 également.
Oui, non, mais je parlais juste de la fois où il est troisième, quoi.
Oui.
C'est assez dingue comme stat. Et quand il est en playoff, alors, OK, il fait dixième en 2007. Et il fait 8e en 2012 et 2016. Sinon, c'est toujours top 4. C'est pareil. On a souvent dit Jimmy Johnson et Chad Kenos, quand ça arrive en playoff, ça pousse le bouton magique playoff. Kevin Harvick, toute proportion gardée, c'est un peu ça aussi.
Après, quand tu énumères ses stats, on disait il y a quelques minutes, Denny Hamlin, c'est l'année ou jamais. Moi, je regarde Kevin Harvick après tout ce que tu nous as dit. J'ai envie de te dire, Kevin Harvick, faut qu'il arrive à conclure sur la dernière course pour empocher un second titre en carrière.
Surtout oui. Qu'on termine à Phoenix.
Pour ouais. Les deux pilotes qui ont archi-dominé la saison, c'est pas super positif quand on regarde sur la dernière course celle qui compte.
Mais Kevin Harvick a déjà été champion. Denny Hamlin court toujours après.
Il est vrai.
Ce serait moins grave que Kevin Harvick perde un championnat que Denny Hamlin d'un point de vue psychologique. Après, quand tu vois les stats de Kevin Harvick, c'est le pilote de la décennie 2010 avec Kyle Busch, en prenant la suite de Jimmy Johnson qui a été le pilote des années 2000. C'est clair, ça se voit dans les stats. On les invente pas, les stats. Hein. On n'a pas passé trois quarts d'heure à vous donner les stats pour rien. Mais clairement, Harvick est au-dessus du lot. Et cette année, il est challengé par Denny Hamlin. Après, je veux dire que ce soit Kevin Harvick ou Denny Hamlin, on s'accorde tous à dire que l'un ou l'autre se sera mérité et ça fera un beau champion cette année.
On est d'accord.
Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, on est d'accord, ce sera un champion mérité.
On aime ou on n'aime pas, mais d'un point de vue des stats, voilà, c'est clair que ça serait mérité. Ce serait mérité.
Si c'est pas l'un ou l'autre, est-ce que ce serait un champion immérité?
Immérité, non, mais surprise, oui.
Ouais, c'est ça. De toute façon, j'ai quand même énoncé globalement toutes les stats intéressantes. On a tellement mis Kevin Harvick et Denny Hamlin sur un piédestal cette année, et ils sont tellement au-dessus des autres, et tu le sens dans leurs interviews. Alors certes, il y a du respect entre les deux pilotes et les deux équipes, il n'y a pas de souci là-dessus, mais tu te sens que quand il y en a un qui gagne, l'autre est obligé de répondre la course d'après ou la semaine d'après. Et ils sont tellement au-dessus que les autres, on ne peut pas dire que ce soit immérité. Mais ce serait juste une énorme surprise. Et après tout, le format des playoffs veut ça aussi. Loïs, toi qui suis tous les sports américains, le système de playoffs, tu prends n'importe quel championnat, il y en a un qui domine dans une conférence, l'autre qui domine dans l'autre, tu te dis c'est la finale rêvée, mais il se peut qu'il y ait un accident de parcours quelque part qui fasse que tu aies au moins un des deux qui soit pas sur la finale, quoi.
Il est vrai, il est vrai.
Et là, ils ont une telle valise d'avance que ne pas les mettre en finale, c'est suicidaire.
Il y a une différence entre atteindre la finale, ce qui est quasiment signé, et il y a une différence avec gagner, ou tout du moins être le premier à Phoenix pour l'ultime course de la saison et devenir champion. C'est pas la même chose, puisque les compteurs sont remis à zéro.
Écoute, ça, on en parlera dans 10 semaines. Hein, on va peut-être pas faire non plus tous les podcasts des playoffs ce soir.
On a déjà assez débordé, je pense.
Non, pas du tout.
Non, c'est plus débordé, c'est un raz-de-marée, là.
On a presque fait une demi-heure supplémentaire par rapport à la double demi-heure. Mais c'est pas grave, on le vit bien.
C'est le début des playoffs, on lance les playoffs comme il se doit.
C'est ça, et puis il fallait qu'on parle de Vindicar avant, donc forcément on a perdu un quart d'heure. Quoi. Je rigole, on adore Vindicar. Donc voilà un petit peu pour les playoffs, mais si on a fait le tour des 16 pilotes. Comme ça, tous ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de vous faire un petit classement éliminatoire des playoffs, libre à vous de le faire et de le partager avec nous sur les réseaux sociaux d'ici dimanche. D'ici dimanche, avant le départ de la course.
D'ici dimanche minuit.
Ouais, on peut leur laisser toute la journée de dimanche quand même.
Ouais, lundi minuit si tu préfères, pardon.
Ah oui, lundi minuit, oui. Ça...
Puisque pour rappel, la course aura lieu lundi matin pour nous.
Oui, c'est ça. J'ai pas l'heure du drapeau vert. Aux États-Unis. Exactement. Et ce sera la première course des playoffs, ce sera à Darlington.
Donc il y en a encore qui vont aller.
Ouais, mais quelque chose me dit que c'est quand même une course qui va être à ne pas manquer. On n'en a pas du tout parlé, mais c'est quand même, on va dire deux mots, c'est quand même la course avec les décos rétro dans tous les sens. Kyle Busch qui aura une déco rétro Elliott Sadler.
Tu vas finir sur le toit du coup ?
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Ah non, pauvre Kyle Busch quand même.
À Darlington, faut y aller quand même. Hein.
Faut y aller, surtout qu'en plus Kyle Busch à Darlington, ça peut être aussi assez solide. Donc voilà, n'exagérons pas non plus. Ne tombons pas dans la parano. Je pense que Kyle Busch, il tombe tout seul. Voilà, il y a des décos dans tous les sens. Là, Hendrick qui va rendre hommage à Jimmy Johnson. Jimmy Johnson qui va rendre hommage à Dale Earnhardt et Richard Petty. Christopher Bell qui va rendre hommage à Christopher Bell. Non, non, c'est pas une blague. C'est la vérité.
C'est ce qui s'appelle avoir la grossesse.
La Hendrick Motorsport qui rend hommage à Jimmy Johnson, il est mort?
Non, mais voilà, les décorations, ce seront les décorations emblématiques, enfin, ce seront trois décorations emblématiques de Jimmy Johnson.
Donc, il y aura
sur l'ensemble de sa carrière.
Il y aura le blanc façon... Lowe's, le bleu marine Lowe's et le argenté Lowe's, c'est ça?
Dans l'idée, c'est un peu ça. Il y a une. J'ai publié l'article, quoi, il y a une dizaine de jours.
Il doit y avoir la déco du premier titre.
Ouais, c'est ça. Il y a la déco du premier titre en 2006. Il y a une déco All-Star blanche de 2013. Et tu en as une autre de 2010. Donc voilà, Jimmy Johnson, septuple champion, qui rend hommage à deux autres septuples champions. Donc on n'aura pas un pilote qui sera 8 fois champion cette année. C'est une certitude. Ils resteront tous les trois tout là-haut, tout en haut de. Pendant encore un petit moment, Jimmy Johnson, Dale Earnhardt et Richard Petty avec ce titre. Les horaires, je vous invite à aller les retrouver sur le site, parce que sinon on va encore déborder un peu plus. Mais Lilian, de toute façon, tu les as plus ou moins donnés, donc au pire, les gens, ils rembobinent le podcast. Nous, on va se donner rendez-vous ce week-end pour suivre les courses de Darlington. Il y a de la Truck à Darlington, il y a de la Xfinity, il y a de la Cup, et on n'a pas des noms de merde de courses. On n'a pas les Wawa 250 qui avaient fait tant plaisir à Lilian. Voilà, on se donne rendez-vous donc ce week-end pour les courses, la semaine prochaine pour le débrief qui, je pense, sera un petit peu plus court que cette semaine ou un peu moins long, c'est au choix. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci à Louis, merci Lilian. Et rendez-vous la semaine prochaine. Salut tout le monde.
À la semaine prochaine et bon courage.
Bon début de playoff à tous et à la semaine prochaine.